Des fois, quand j'étais petit, mes copains et moi, on allait dans les bois avec nos sarbacanes. On faisait rien de très méchant. On tuait des mulots, des oiseaux, des petites bêtes, des trucs plus gros si on avait de la chance. Mon premier homme, je l'ai tué dans ce bois. C'était le proprio de notre ferme, et quand papa est mort, il... Le jour du terme, il s'amenait pour que ma mère le paye en nature. J'étais pas plus vieux que Button, mais je l'ai tué d'une balle dans la gorge. Je savais que ça pourrait plus s'arrêter, ces tueries, et je me suis engagé dans l'armée. À ce moment, la guerre faisait rage. Ils recrutaient à tour de bras à l'époque. Le premier combat ressemblait beaucoup à la chasse dans les bois avec mes copains. On avait grimpé pour se cacher dans les arbres et ils sont venus droit sur nous. On a compté plus de 100 morts qui étaient restés par terre après l'embuscade. Et on est descendu pour achever ce qui n'était pas encore. Alors l'état-major a décidé de former une unité spéciale d'infanterie légère qui s'infiltrerait et agirait en territoire ennemi derrière les lignes. Les ordres étaient vraiment simples, provoquer le plus de destruction possible. Avec une mission aussi vague, ça n'a pas traîné, on a commencé à tuer des gens qui n'étaient pas en uniforme. Et c'est comme ça que j'ai fait la guerre jusqu'au bout. Je suis venu dans l'Ouest après ça. Il y avait du travail pour des types comme moi. Et je me suis mis au service de gens comme Baxter. Pire parfois. Quand j'ai beaucoup de chance, il m'arrive de passer une journée sans me poser de questions sur qui je suis, ce que j'ai fait.
Tony.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important?
C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi, j'étais fatigué.
Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. De Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'entailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Trollstruy. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Non, on n'est pas obligé de tuer. On n'a aucune raison de se détruire mutuellement.
Loi 3. La pitié est pour les faibles.
Ford, arrête-toi.
Loi 8. Il n'existe qu'une seule punition. Pour n'importe quelle faute, c'est la mort.
Il n'en est pas dit. Je suis le... C'est moi, le nouveau chef de clan, à présent! Nous allons avoir de nouvelles lois! Loi 1! Il n'y aura plus de tuerie. On veut la paix et le bonheur!
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin.
Salut les kids.
Merci de nous accueillir dans les studios terres de Canal B, à savoir la cuisine de ton appartement, très chaleureux. Merci encore une fois de nous accueillir ici pour revenir aujourd'hui sur le western en 2024. Parce qu'on est en 2024, c'est terrible de penser qu'on est déjà aussi loin dans le calendrier de l'humanité. Mmh. Et que fait le western aujourd'hui en 2024?
Disons que vu que la branlée que s'est pris la droite, on s'est dit on va leur donner un petit coup de main en leur parlant du genre de droite par excellence, le western.
Mmh. Voilà. Ceci à l'occasion, bien évidemment, de la sortie, notamment sur grand écran, et c'est important de le signaler quand même, du Horizon de Kevin Costner. Mmh. On a pu entendre, juste avant que je commence à causer, et toi aussi Antonin, des extraits justement de deux films de Kevin Costner, Open Range et Postman. Mais avant d'évoquer ce merveilleux film qu'est Horizon, et avant qu'il y ait un débat du cinéma est mort, puisque ça faisait longtemps quand même qu'il n'y avait pas vu débat dans le cinéma est mort, on a trop souvent depuis trop longtemps.
La dernière fois, c'était pour Amélie Poulain, enfin, un truc comme ça que t'adorais.
Non,
j'ai dit que c'était
vrai.
Nul.
Tu veux que je te rappelle le dernier débat qu'on a eu? Et ben, c'était pour un film de Kechiche.
Ah oui, peut-être bien.
Tu te rappelles quand t'as pas voulu participer à l'émission et que t'as arrêté de parler.
Ah, c'est vrai.
Que...
Ouais, mais j'étais sous.
Avant d'évoquer Horizon, toi, tu as vu quand même... Parce que le western n'est pas complètement mort. Il est en état de mort cérébrale, sans doute. Il disparaît des grands écrans, ça c'est sûr. En fait, on a peu de westerns qui sortent sur grand écran. Mis à part une fois par an, peut-être une exception. J'évoquais avant qu'on fasse cette émission, par exemple, Audiard, qui fait les Frères Sisters. Mortensen, tu l'as vu, tu vas pouvoir en dire tout le mal que t'en penses à ce moment-là.
J'ai oublié le nom de ce film,
on le voit plus peut-être justement sur les plateformes, puisque on parle de séries télévisées, c'est plutôt des films de plateforme ou des séries pour des plateformes aujourd'hui. Donc là, ça existe. Mais une fois par an, quand même, il y a un petit western ou un western d'auteur qui sort sur les plateformes. Mais
au cinéma aussi.
Au cinéma, mais au cinéma, voilà. Justement, on va revenir là-dessus. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qui existe comme western aujourd'hui en 2024 finalement? Les derniers grands westerns classiques dans les années 90, Costner justement était un grand représentant de ça. En 90, il fait Danse avec les loups. Dans les années 80, déjà, le western va pas bien. Hein, de toute façon,
Il y a quelques trucs, quoi. Il y a les gangs des Fred James, les Wyatt Earp.
Non, vite fait, on peut revenir sur le fait qu'en effet, La Porte du Paradis, non seulement a mis à mal le cinéma d'auteur, on va pas refaire toute l'histoire, mais le western aussi, grosso modo. Dans les années 80, le western perd de sa grandeur, alors qu'il avait encore des beaux morceaux quand même, via Peckinpah, via d'autres dans les années 70. Ouais. Dans les années 80, évidemment, Clint Eastwood continue à faire des choses. Pale Rider, par exemple, est le premier film de Eastwood qui vient à Cannes, et c'est un grand western. Il va continuer lui aussi jusqu'en 93 avec Impitoyable. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a d'autres westerns dans les années 80-90, y compris avec Costner, quand il fait Wyatt Earp, comme tu le disais, ou d'autres choses. Enfin, il y a des westerns, Silverado, machin et tout. On a des westerns encore jusque dans les années 90, mi-temps des années 90, et puis ça disparaît quand même grosso modo au fur et à mesure. Et arrivé aux années 2000, mis à part quelques petits objets par-ci, par-là, il y en a un petit peu, mais évidemment, c'est un genre qui vraiment paraît désuet, et les cinéastes ne vont plus forcément aller là-dedans, et le public non plus, ça n'intéresse pas. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est encore plus... rare en fait d'avoir du western, alors même que en effet à la télé ou sur les plateformes, parce que je pense à Deadwood par exemple, créé par Walter Hill, la série Deadwood qui était super, qui recréait le western mais de façon très crue justement, c'est-à-dire que l'idée c'est que on va, comme Rome avec John Milius par exemple, montrer l'esprit western mais vraiment
Réaliste crado, quoi.
Voilà, c'est ça, réaliste crado. Ça marque un coup, évidemment. Comment faire du western classique après ça, évidemment c'est compliqué, comme n'importe quel genre, tu me diras. Et encore que le cinéma d'horreur, par exemple, le genre horreur, il n'a pas ce souci-là. En fait, il y a d'autres genres qui n'ont pas forcément cette problématique-là. Le western, lui, après avoir vu justement le réalisme dans d'autres films, que ce soit ce qu'a fait Eastwood justement ou ce qu'ont fait des séries, comment refaire un western classique? On ne va pas refaire du Bud Boetticker
contrairement à l'horreur, effectivement, qui est un genre assez prolixe, enfin en termes numéraires, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que le western, comme tu l'as un peu dit, hein, quand il y a vraiment du western au cinéma ou sur les plateformes, c'est presque du western d'auteur, en fait. À chaque fois, c'est un événement du fait de la rareté, et c'est souvent aussi un moment où quelqu'un d'assez identifié s'empare du genre, quoi, parce qu'on pourrait citer l'année dernière même Scorsese, quand il fait Killer of the Flower Moon, qu'on peut rattacher au western, et puis
Jane Campion
sur Netflix, et Mortensen aussi, c'est son deuxième long métrage quand il fait ce film.
André Arnold aussi qui avait fait un
André Arnold elle avait fait
non, c'est peut-être une autre, mais une cinéaste qui avait aussi,
il y avait Kelly Richards qui a fait la dernière fiste et qui a fait
des grossesses, alors forcément pour moi c'est pareil,
bonnet blanc, blanc bonnet. Non, c'est ça qu'on dit. Et Kelly Richards, oui, donc c'est la dernière piste. Et puis First Co, il y a quelques années, 2-3 ans. Mais qui sont évidemment des inscriptions dans le genre fortes, mais avec un geste d'auteur très très fort, contrairement à une idée classique du western, où évidemment, même si on peut détacher des grandes figures telles que Hawks, Ford, Boetiker, Walsh et tout ça, ça restait du cinéma hollywoodien classique, avec une figure de l'auteur assez effacée par rapport au standard du genre, quoi. Donc ouais, il y a quand même ce truc-là. Mais bon, moi après, c'est vrai que j'ai jamais l'impression, le western, on l'a toujours déclaré mort, mais il est pas mort parce qu'en fait, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps, même s'il y en a de moins en moins.
On n'a pas évoqué non plus le Bone Tomahawk de Craig Zeller, où on va mélanger les genres horreur et western, qui est peut-être un des très grands western justement.
Complètement, et puis après, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un truc, c'est que enfin, peut-être que le cinéma d'horreur, ouais, bah, s'il y a aussi le l'évité d'horreur, on a vraiment des auteurs qui investissent le truc. Mais là, quand je vois cette année, bah, effectivement, il y a ce film dont je me rappelle plus le nom, mais vous l'aurez très bien en tête parce qu'il est sorti il y a quelques mois. C'est le film de Mortensen. J'ai même pas envie de me rappeler le nom parce que c'était vraiment trop nul.
Viggo Mortensen,
qui a toute ma sympathie, mais qui est presque moi, avec son côté premier de la classe, et je fais un film, je suis très très sensible. Regardez les filles et les garçons comme je suis sensible et comment j'ai une sensibilité poétique et tout ça. Bah, quand il fait un western, et eh ben ça pue aussi un peu le côté très attentionné, très attentif, très je pourrais dire c'est un pur film woke, tu vois, voilà quoi.
Enfin, non, mais c'est bien que tu le dises maintenant, je suis content que toi tu le dises plutôt.
C'est typiquement le genre de film où tu dis que ça prend tellement des précautions un peu partout que au final c'est pas très intéressant du tout, quoi. Et je vais pas du tout faire de procès en wokisme à Mortensen, non, c'est vraiment pas ça que je reproche, mais c'est vraiment un côté très je trouve ce film en plus assez mal écrit et qui donne un petit peu qu'à une sorte de volonté autoriste qui va s'incarner dans une sorte de sophistication en termes de récit, avec une sorte de récit enchâssé passé présent où on se dit mais pour c'est de la fêtrerie autoriste de faire ça, pourquoi l'avoir raconté cette histoire comme ça alors qu'on aurait pu la raconter de façon linéaire, et qu'est-ce qu'elle aurait gagné, qu'est-ce qu'elle aurait perdu. Mais ça fait quand même vraiment quelque chose qui est un peu comme ce que a pu faire Jane Campion. Power the Dog, je l'ai très peu en tête, mais c'est vrai que c'est un film, un western qui au final se perd un petit peu en circonvolution, qui d'affêterie d'auteur, qui était un film Netflix pour le coup, ouais, complètement. Moi, le dernier western bien que j'ai vu contemporain, qui est un film mais qui du coup est un téléfilm, ce qu'il a atterri en France sur Canal+, alors même qu'il faisait partie de la sélection de Venise l'année dernière, je crois, c'est Kingsland, le film avec Mads Mikkelsen. Et je sais que toute l'année dernière, tout ce qui était à Netflix, les Ferrari, le film d'Adagio de Solima et tout ça, ils ont tous atterri sur des plateformes, dont celui-là, et qui est pas un western à proprement parler parce que c'est un film danois, mais qui se passe dans le Jutland, mais qui est clairement une thématique de western, avec quelqu'un qui va dans un territoire désolé, qui sont les territoires qui appartiennent au roi, et le roi a dit si quelqu'un arrive à rendre cet endroit-là habitable, cette terre lui appartiendra. Et lui, qui est un ancien soldat, avec le reste de sa solde de soldat, il va aller fonder une ferme et cultiver des patates qu'il a ramenées de je ne sais plus quel pays pour faire son truc. On est vraiment dans une pure truc de western où il y a ce truc très formel du western qui est extrêmement important, c'est ce rapport de l'individu avec l'espace, quoi, qui fait que c'est le genre cinématographique par excellence, quoi. On a vraiment, et que ça lui permet d'atteindre une forme d'abstraction par ce rapport-là de l'homme et de l'espace. On peut raconter tout avec ça, et il y a tout de suite un côté très abstrait qui rentre. Et j'ai trouvé ce film, sans aller crier au chef-d'œuvre, vraiment hyper efficace en termes de récit, en termes de d'originalité aussi de l'histoire que ça pouvait raconter, et vraiment à mi-chemin en quelque chose qui est très très sec, qui pourrait être du western, cette sorte de sécheresse des pionniers, on n'a pas de sentiments et tout ça, ce truc très hoxien, et un côté au contraire très sentimental qui va finir par arriver malgré le personnage principal. Moi, je conseille assez fortement son film, c'était mon conseil conso.
Et le conseil conso, et t'en avais un deuxième d'ailleurs avant qu'on passe à Kevin Costner. Warner, une série que moi je n'ai pas pu voir en entier, j'ai vu que, donc une mini-série même, d'ailleurs qui fait partie d'un univers télévisuel. C'est 1883. Alors déjà un univers télévisuel parce que justement c'est un préquel de préquel de Yellowstone. Donc c'est comment il s'appelle ce bonhomme, Taylor Sheridan. Taylor Sheridan, donc qui crée Yellowstone, qui a fait plein de séries, qui est un peu trop présent d'ailleurs, qui écrit trop de choses.
Qui écrit beaucoup de choses.
J'ai envie de m'inquiéter. Ça m'inquiète un petit peu.
Scénariste de Sicario 1 et 2, réalisateur de Wind River, film plutôt pas mal du tout, et de Comancheria. Et qui maintenant écrit beaucoup pour la télévision. Il a écrit le maire de Tulsa avec Stallone. Ouais. Et il est l'auteur de
ça.
Pas
dégueulasse, hein, si vous voulez un truc léger. Tulsa King, c'était léger. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et on revoit Stallone pas mal.
Et en tout cas, c'est un des trucs pour lequel on peut pas du tout déclarer mort le western, c'est que peut-être qu'en France ça n'a pas du tout beaucoup de résonance, mais Yellowstone aux États-Unis, c'est au contraire un carton absolument phénoménal.
Donc, la série avec Kevin Costner, le Dallas.
Voilà, c'est une sorte de Dallas western, qui marche très très bien, qui a donné suite donc à deux, deux préquels, 1923 et 1883, que je n'ai pas vu.
Harrison Ford notamment, et puis Helen Mirren, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, c'est ça.
Voilà. Mm. Et puis en effet, 1883, qui revient encore avant.
Qui revient encore
donc
avant.
Donc avec les colons.
Ouais, complètement. Et ça, c'est presque plus qu'un, enfin, c'est vraiment plus qu'un conseil conso, parce que c'est vraiment un de mes grands coups de cœur en fait de cette année jusqu'ici. C'est une série qui a 2-3 ans et que j'ai regardé sous les bons conseils de notre ami Melvin Z, et qui m'a emballé de très très fortement quoi, hein. C'est donc une série, il me semble, en 10 épisodes, hein, 10 épisodes, et qui raconte un convoi de pionniers escortés par deux non pas cow-boys mais deux mercenaires, hein. Et quelques cow-boys, donc proprement parler, c'est-à-dire des gens là pour gérer le bétail, qui les accompagnaient dans leur convoi, et puis des convois d'Européens, qui vont traverser du Texas, je ne sais plus dans quel état, plus au sud-ouest, je ne sais plus où, enfin en tout cas géographiquement, excusez-moi
c'est
cette imprécision.
C'est une histoire de convoi.
Mais c'est une histoire de convoi, voilà.
C'est un classique du cinéma.
Complètement.
Et Ford comme Wellman. Ou Hawks, en effet, ont évoqué ça, c'est un classique, le convoi.
C'est de toute
façon.
Parce
que du coup, ça permet de traverser le territoire, de rencontrer aussi, du coup, les différents Indiens qui peuplent aussi ce territoire, avec les méchants Apaches, les gentils Sioux, n'importe quoi. J'ai pas.
Des brigands,
Les brigands. Donc,
c'est un archétype.
Et puis de créer la communauté, justement, comment la communauté va pouvoir se créer, alors qu'au départ, ils sont évidemment tous d'univers différents. Ils ont des concepts de vie, en fait, qui sont complètement différents. Ils vont devoir vivre ensemble. Et donc, on apprend à vivre ensemble.
Il y a un peu de ça. Je pense que c'est une des côtés qui, enfin, on dit, disons qu'on peut travailler cet aspect-là, cette thématique-là, quand on fait ce film de convoi. Et je dirais aussi qu'il n'y a pas non plus tant de films que ça qui sont dans les convois. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les séries, hein, dans les films. Je veux dire, on voit dans La Rivière Rouge, que je revoyais dernièrement, à un moment ils croisent un convoi, mais eux c'est pas à proprement parler un convoi. Ils convoient des têtes de bœuf, enfin des vaches et des bœufs.
Non, c'est vrai,
t'as
raison. Il y a plus de convois de bêtes que de convois d'hommes.
Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, sinon des convois.
Mais ça reste quand même.
Mais
voilà,
c'est même dans Lucky Luke, en fait.
Forcément.
Mais c'est une image, en tout cas, qui est très archétypale du western. C'est vraiment le convoi de chariots qui traverse les grandes plaines. Quoi. Voilà, tout à fait. Ça va s'attaquer vraiment à ça. Mais je veux dire, non pas dans toute sa réalité documentaire, mais en tout cas, le récit prend vraiment en compte toute la dangerosité de cette étape extrêmement importante de la constitution des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que tous ces gens-là, virés d'Europe ou qui échappaient à un passé européen absolument affreux, se sont mus par un rêve. Ils veulent s'installer, ils vont accepter, ils vont vouloir aller vers l'ouest des États-Unis et vont du coup braver des dangers absolument exceptionnels, et vont s'aider du coup de mercenaires qui vont les aider.
La série a sa place là-dedans, en effet, étant donné la multiplicité de personnages
complètement. Non, en fait, il y a plusieurs.
Dans un convoi, le fait d'en faire une série, ça a un sens, en fait.
Ça a un sens. Après, effectivement, j'ai vu des films comme ça qui resserraient ça en deux heures de façon très bien. Mais la série permet effectivement de croiser plusieurs personnages, que ça soit les cow-boys, que ça soit une famille avec une jeune fille qui va vraiment découvrir l'Ouest complètement et qui va devenir une cow-girl, hein, non pas une call-girl, mais une cow-girl, c'est ça.
Merci,
et qui est aussi la narratrice du truc et qui est un personnage, moi je trouvais absolument époustouflant. Alors un, puisque la nana elle fait trop bien du cheval, je trouve que les gens ils faisaient trop bien du cheval dedans et c'est super. Et elle a un petit côté un petit peu malikien, c'est-à-dire qu'elle porte la série en introduction et en fermeture par une sorte de voix off un petit peu à la porte du pas à la porte du paradis mais à la moisson du ciel. Et en fait il y a un truc qui est très naïf et très beau et qui va porter en elle ce truc qui est très où le film, enfin la série va naviguer entre deux pôles. C'est ce côté très très lyrique sur la beauté du rêve qui les anime, d'une nouvelle vie qui vont se créer là au loin vers l'horizon, et de l'extrême dureté des conditions de vie de ces pionniers qui crèvent, il faut bien le dire, à tire-larigot, parce qu'ils se font bouffer par des bêtes sauvages, ils se font piquer par des serpents, ils bouffent de l'eau croupie, ils se font tuer par des indiens, ils se font tuer par des brigands, ils n'ont pas écouté les bonnes consignes, donc du coup ils crèvent de chaud, ils meurent, les enfants meurent, ça meurt de partout, mais la série arrive à tenir cette sorte, cette chose qui n'est pas un équilibre d'ailleurs, entre quelque chose de très élégiaque ou cette sorte de, non pas de matérialité mais d'utopie américaine, de ces gens qui sont mus par d'une part voilà, la volonté d'un monde meilleur, une utopie à réaliser, et puis la splendeur évidemment des paysages traversés ou qui à chaque fois est superbe.
Une histoire de migrants, quoi,
c'est même. Une histoire de migrants. Mais alors ceci dit, je terminerai là-dessus, mais là ce qui me fascine je trouve le truc génial, il y a Sam Elliott là-dedans. Donc Sam Elliott, c'est le cow-boy dans The Big Lebowski, il est extraordinaire. Il y a cette personnage de Nana qui est super, toute la famille moi je les trouve d'une classe insensée. C'est évidemment un film qui a aussi un récit d'empowerment féminin qui est très très fort. Il est extrêmement aussi très progressiste dans le sens que les personnages des Indiens sont extrêmement bien traités, extrêmement bien filmés, les personnages de d'Afro-Américains aussi, on a un personnage d'Afro-Américain absolument génial. Mais ce qui est génial, ce qui me fascine là-dedans, c'est que Taylor Sheridan, c'est effectivement un mec vraiment profondément de droite, mais libertarienne. Parce que quand tu disais que par exemple c'est une histoire sur les migrants, il y a un point aveugle dans cette série, c'est qu'en fait les migrants, en fait on les voit pas tant que ça. En fait, c'est les gens qui sont convoyés par cette famille et par ces cow-boys et par cette la famille dans son entier, et puis les quelques indiens qui les accompagnent. Et il meurt à tour de bras, on les voit, c'est assez terrible. Il y a un personnage qui les représente tous, qui a le droit d'être un personnage, mais sinon eux on les voit pas, et c'est eux. Et la grande question que se posent les cow-boys, c'est genre, est-ce qu'on doit vraiment les aider ou est-ce qu'il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes? En fait, on est vraiment dans une pure philosophie Ayn Randienne qui fait que voilà, ils sont tous animés par ce truc de dire bon, c'est bien de les aider, mais il faut pas que ça devienne des putains d'assistés quand même.
Donc il va
falloir quand même que de fleuve, ils le traversent par eux-mêmes. On va pas tout leur expliquer. Il faut y aller.
Ce que tu disais tout à l'heure, et on pourra jamais dire le contraire, c'est que le western est un véhicule de droite malgré tout. Il y a des westerns gauchistes, hein, on pourra évidemment en trouver, mais dans sa généralité et surtout le western classique, le western c'est un genre de droite.
Alors moi je dirais pas que c'est vraiment un truc de droite, mais je pense que ça questionne vraiment ça, et que vu que c'est un genre profondément américain et qu'il n'y a pas vraiment de gauchistes dans le cinéma américain, mais en tout cas ça peut le questionner. Il y a des fois les films sont pas forcément, ils sont pas en train de donner, c'est encore le cas de La Rivière Rouge que je revoyais, et qui c'est qui a raison dans La Rivière Rouge, c'est John Wayne ou c'est Montgomery Clift? Et c'est typiquement dans un truc qui va poser la question du rapport de l'individu à la communauté. Est-ce que la communauté doit être dirigé par des individus, ou est-ce que chacun doit être un individu et être maître de son propre destin plutôt que de confier son destin à quelqu'un? C'est que des questionnements profondément américains, qui est une façon de penser le monde qui est profondément américaine, donc profondément centrée sur l'individu quand même. Et la question de la communauté, c'est toujours dans les États-Unis une communauté d'individus. Et ce qui fait que ce qui est marrant, c'est que Taylor Sheridan, où je pense que politiquement on serait pas copains, c'est que c'est quelqu'un qui, on le voit bien, même scénaristiquement, on se dit il est incapable de filmer le peuple dans en dehors que de les... Après, c'est aussi un problème de la série, hein. et de beaucoup de films, c'est que c'est non, c'est le peuple dans une sorte de, d'assemblée un petit peu, on va dire, non pas informe, mais qui serait juste cette notion-là. Non, il peut pas la filmer. Il va plutôt filmer, bah oui, un individu qui va être représentatif de ça et qui va s'extirper de cette masse-là. Mais voilà. Après, bon, c'est pas une réserve mise à part, parce que je pense que c'est pas une réserve, parce que je trouve la série vraiment exceptionnelle et très belle plastiquement. Ça manque d'argent dans les scènes d'action et tout ça, mais je trouve que la lumière, hein, on en reparlera tout à l'heure, même de cette série-là, elle est beaucoup plus belle que dans le Kevin Costner, désolé. Et les acteurs vachement mieux.
Non, c'est pas vrai.
Et par contre, voilà, ça manque de souffle, de mise en scène et de découpage dans l'action, dans les quelques scènes d'action qu'il peut y avoir, de bagarre ou de traversée mais c'est génial.
Avant qu'on fasse la pause, et parce que ça correspond à ce que tu viens de dire en fait, et c'est un plus en fait, par rapport, je dis en rigolant à moitié en fait, que le western est un genre de droite. T'as évoqué le wokisme tout à l'heure, on va pas rentrer forcément dans ces débats là parce que je trouve, mais dans l'évolution de la représentation des personnes de la communauté dans le western, il est important, je pense, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, que très tôt, en fait, je pense notamment à John Ford. John Ford s'est rendu compte très tôt que, voilà, il faisait un western, il en faisait parfois plusieurs par an, en fait, entre les années 40 et les années 50 et 60. Et qu'il faisait un western, il avait évoqué une communauté, il avait évoqué une forme de personnage ou un archétype, et du coup il manquait quelque chose dans son film, donc le film d'après en fait, il allait arranger ça en fait, grosso modo, c'est-à-dire qu'il n'allait pas se répéter. J'en parlerai je pense avec Kevin Costner, parce que Kevin Costner, pareil, il ne se répète pas, il a fait que 3 westerns, il a réalisé que 3 westerns, mais il ne se répète pas, selon moi en tout cas. Je ne mets pas forcément Costner au niveau de John Ford encore, mais en tout cas dans sa filiation. Et il ne faut pas oublier quand même, en effet, cet aspect-là. Le western, malgré le fait qu'en effet, il se rattache à des archétypes, à des codes aussi énormément, et puis à une époque. Ford l'a bien montré, c'est qu'il est possible, et on peut le faire dans un seul film, mais il faut voir ça dans son ensemble, en fait, et... l'œuvre de Ford est importante pour ça, énormément pour ça aussi, c'est que faut voir son ensemble et qu'au fur et à mesure, de film en film, on va évoquer, en effet, des caractères différents, des personnages différents. Et dans un film, il n'aura pas montré, par exemple, la cavalerie noire afro-américaine. Il va le faire dans le film d'après. Les femmes, il le fera dans le film d'après. Les Indiens aussi, il va leur offrir. Et chaque film, comme ça, il va évoquer des problématiques comme ça, mais pas forcément sur des genres ou des communautés. Ça peut être sur aussi des formes en fait de courage, l'homme qui a tué Liberty Valance, voilà, il va évoquer aussi justement la légende, il va évoquer plein de choses. Chaque film en fait apportera un morceau supplémentaire en fait, justement à l'édifice. C'est important, et faut pas prendre un film en fait pour donc la série peut apporter aussi justement des évolutions comme ça. Je pense que 1883, on voit une évolution sur un personnage, très bien. Je dis ça pour évoquer, on va évoquer après la pause musicale Kevin Costner. Je pense que dans le dernier Kevin Costner, en fait, il y a des choses qui sont montrées, qui sont évoquées. Il avait déjà dit des choses avant, il ne va pas les répéter maintenant. Et puis, en plus, le film est censé être en plusieurs parties. Je dis ça parce que je vois beaucoup de critiques très négatives à ce niveau-là. Et c'est pour évacuer aussi un petit peu tous les reproches qui pourraient être faits sur le film de Kevin Costner, justement, la représentation.
Mais je continuerai à en faire quand même.
Et ça sera vain parce que justement je viens d'évacuer tous ces problèmes. Voilà, le western a cette capacité, a ce pouvoir même, j'ai envie de dire, d'évoquer énormément de choses en fait, malgré le fait qu'il soit ancré avec des codes, dans une époque particulière.
C'est pour ça que c'est quand on connaît un petit peu le western, c'est toujours un peu rageant de voir, d'entendre des gens dire ouais, de toute façon, bah les westerns, oui, bon, bah, c'est des mâles blancs qui tuent les Indiens. Quand t'as vu un peu de western, tu dis bah Non, en fait, c'est ça, c'est voilà. Vachement plus compliqué.
Donc je voulais juste évacuer en fait qu'on n'entende pas ce genre de reproche sur le western. Non, le western a lui-même et depuis longtemps, très tôt d'ailleurs, était capable en fait de prendre en compte ses propres limites entre guillemets sur les premiers films qui avaient été proposés, en sachant en effet, et c'est là aussi je voulais terminer avant de faire la pause, c'est de savoir en effet que le western a lui-même créé un effet Potemkin, à savoir qu'il a créé une histoire américaine qui n'était pas correcte en fait.
Il a questionné assez tôt, c'est pareil. Il a eu très, très vite conscience.
Mais on garde aujourd'hui, les spectateurs gardent aujourd'hui cette idée-là en fait.
Ouais, ouais, c'était un des œuvres de propagande. On pourrait dire c'est aussi, ça. C'est toujours ça qui est énervant, mais ça s'est toujours posé la question aussi de ça. Que le récit, enfin ça s'est pas toujours posé la question, mais très tôt on a vu des films qui questionnaient aussi cette nature assez légendaire de grand récit national, et que cette façon de raconter se mettait en évidence de façon
un peu méta. Gardé dans les westerns les plus populaires, les plus et ceux encore qu'on connaît aujourd'hui en fait, c'est-à-dire que c'est le cowboy limite solitaire, voilà, il y a des figures comme ça du western qui ont marqué en fait l'histoire, et on a confondu ce que montrait le western hollywoodien avec la vraie histoire. Et c'est vrai que majoritairement, le western américain, en fait, a montré une histoire qui n'était pas la vraie histoire, en fait, et qui s'est confondue. Voilà, tout s'est confondu. Et au fur et à mesure, les Américains, les réalisateurs américains ont essayé, en effet, de remettre en avant, en fait, la vraie histoire américaine et de montrer ce qui se passait. Mais ça, voilà.
Même s'il y avait ça en germe, c'est tout, en fait.
Évidemment, évidemment. Mais les films qui pouvaient essayer de le montrer, il y a différents documentaires, que ce soit sur la culture afro-américaine, le cinéma afro-américain ou d'autres choses, qui ont essayé de montrer justement qu'il y a des films qui essayaient de montrer autre chose, mais c'était pas les films les plus populaires, et c'est pas ce qui reste aujourd'hui dans la culture populaire justement
L'image qu'on peut avoir.
Voilà. Donc il faut garder ça en tête, mais malgré tout, voilà, le cinéma américain a fait ce travail déjà en fait très tôt, très tôt. Et l'a finalisé vraiment dans les années 70 en tout cas, et tout a été montré. En ce qui me concerne, tout a été montré dans les années 70 sur ce qui est de la culture du western américain, de comment le remontrer, de le recréer. Et aujourd'hui, les gens comme... alors, même si je suis content que Kelly Richards ou Jane Campion fassent leur western et racontent des histoires différentes, d'un point de vue différent... Ce qui me gêne beaucoup dans ces westerns-là qu'on voit depuis plus de 20 ans, en fait, c'est surtout que justement, c'est le metteur en scène qui se met en avant. Et ce qui me manque, moi, aujourd'hui, et c'est là où on va revenir après sur Kevin Costner, c'est le western classique. D'une mise en scène classique, ça ne met pas en cause le sujet, ça ne met pas en cause ce qui est montré et les rapports de genre, de classe, de n'importe quoi, mais c'est en termes de mise en scène. Et. On va faire une petite pause et on va revenir après sur le fait que Kevin Costner, heureusement qu'il est là, pour enfin montrer comment
allez, Kevin.
Un western classique.
Mais on passe quand même des extraits d'un bon truc de 1883.
This is a rattlesnake. They hide under logs and under rocks. At night, if it's cold, they will look for warmth. And if you're sleeping on the ground, that warmth is you. A bite will kill you.
Das ist eine Klapperschlange. Sie versteckt sich unter Holz und unter Steinen. Nachts sucht sie die Wärme. Schlaf nicht auf dem Boden. Ein Biss von ihr ist tödlich.
This is poison oak and poison ivy. It won't kill you. You'll just wish you were dead. Do not touch it. Do not walk in it.
Giftiger Efeu und giftige Eiche, sie sind nicht tödlich, aber ihr würdet euch wünschen, ihr wäret tot. Auf jeden Fall nicht anfassen und nicht drauftreten. Pass auf die Kinder auf.
What else? Water. Do not drink water from the ground. When we camp, we will choose a latrine away from the water source.
What is a latrine?
Powder room. Water closet. Thomas, help me.
Toilet. What in the hell is a toilette?
French for shitter.
When did you learn French?
Don't know French. I just what French word for shitter.
How do you know the French word for shitter?
It's the fucker gal from France.
Fine, that's all you had to say. Well, I'd get angry about it. Victory step to the right.
Why?
So I don't kill the women standing behind you.
Weg, mach Platz! Mach Platz, geh aus dem Weg!
Wo Hope you had a chance to practice with that. You ready? You want my horse? Take it. Let's go. Come on! Can't make it much easier than that. Bang. During the war, we fought a battle at this place called the Wilderness. There was nothing around but wilderness. I fired my rifle so many times, the barrel melted, just drooped like rotten fruit. So I killed with my pistol. And when I ran out of bullets, I killed with my sword. And when my sword broke, I killed with my boots and bare hands. When the battle was over, and I looked behind me, the wilderness was gone. Not a tree left standing. Chopped down chest high by bullets. We killed 5,000 men that day. When I say killing you means nothing to me, I mean it. Killing you means nothing.
Merci Antonin pour ce merveilleux montage qui nous a permis de réécouter la partition exceptionnelle de John Barry pour Danse avec les loups.
C'était le disque préféré de Jean-Paul II.
Et ben, il avait très bon goût, Jean-Paul II. Cette bande originale de Danse avec les loups est exceptionnelle. Je conseille vraiment écoutez John Barry, grosso modo. Il a même enregistré des disques pour des musiques qu'il n'a pas fait pour des films, mais qui étaient. Il faut écouter tout John Barry, c'est merveilleux. Et donc, Danse avec les loups, le premier long métrage réalisé par Kevin Costner. Très tôt, hein, finalement, après avoir percé dans le cinéma, Kevin Costner, c'est bon, il a fait quelques films dans les années 80 où il est un petit peu populaire. Paf, il se lance dans ce projet complètement dingue. Mm. Vraiment, une ambition déjà folle. Et il fait Danse avec les loups. J'ai eu peur. Je vais vous raconter un peu ma semaine. J'ai deux minutes, là, je vais le faire. J'ai adoré Danse avec les loups, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. J'aime ce que propose en termes de projet Kevin Costner. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il y a Horizon qui sort, je vais essayer un truc. Et je commence par le plus costaud, à savoir The Postman. Donc, c'est le projet qu'il fait après Danse avec les loups, après Waterworld, son deuxième long métrage réalisé.
Qui voilà. Pareil. Pas du coup un western à
c'est pas un
parler.
Western, c'est un film, c'est post-apocalyptique, ouais. En fait, avec une ambition assez folle en fait, et évidemment qui s'est planté comme beaucoup de projets de Costner, mais là il s'était bien planté déjà à l'époque, juste après Waterworld, ce qui avait un peu enfoncé Costner quand même, quoi. Et je le revoyais avec, j'avais vraiment en moi le truc, j'ai envie d'apprécier l'ambition en fait, le projet de Costner, puis j'avais le souvenir justement de cette ambition, de ce projet un peu fou de film post-apo de Costner, tout ça machin, en sachant qu'il y avait ce rapport au nanar quand même qui traînait derrière ce film, et en le revoyant je me suis dit bah, c'est peut-être un peu nanar parce que justement il y a cette ambition. Non, en fait c'est vraiment du nanar, c'est nanar parce que il y a l'ambition mais surtout il y a la prétention et il n'y a pas la mise en scène qui va avec. Et c'est vrai que c'est pas bien mis en scène. Et j'ai eu super peur. C'est le premier film de Costner que je revoyais pour préparer cette émission. Et j'avais eu super peur parce que je me dis, mais en fait, c'est pas bon du tout. C'est mal mis en scène, c'est mal écrit. Il y a pas grand chose, vraiment. Il y a vraiment pas grand chose à sauver dans The Postman, en fait. Et c'est long, en plus. Je l'ai pas fini parce que c'est trop long, quoi. Et donc, j'étais très inquiet. Et j'avais très peur de revoir Danse avec les loups, qui est un film que j'aimais vraiment beaucoup. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va pas être pompeux aussi, pareil, et mal foutu, en fait, comme Postman, alors même qu'il y a des corps fous, machin et tout. Non. Postman, nul. Danse avec les loups, et ben, j'ai vu la version, c'est plus de 4 heures. Et ben non, Danse avec les loups, c'est vraiment génial. Vous pouvez y aller, Danse avec les loups. Alors, dans le récit d'initiation, vraiment le personnage qui découvre un autre monde, c'est en effet Avatar. Il y a un chef-op dingue et des images folles. Il y a l'une des plus grandes bandes originales du monde qui, du coup, nous entraîne dans des choses. La violence, c'est cru, c'est-à-dire qu'il est, c'est pas un film benet, c'est pas le film de Bisounours, de Schtroumpf, comme il a pu être vendu aussi. Non, le film va pouvoir montrer la communauté des Amérindiens, par exemple, qui sont cruels. Et en même temps, il s'agit d'aller vers l'autre et d'apprendre à le connaître. Et puis, tu as ce goût des grands espaces qui va rester le fer de lance de Costner sur même ses films différents. C'est cet esprit de la liberté, en fait. Quoi. Et tu parlais de libertarien tout à l'heure. Je pense qu'en effet, il vire un peu là-dedans, Kevin Costner, vers le libertarianisme. Mais en même temps, là, dans le western, eh ben, justement, ça fonctionne à fond les ballons. Et Danse avec les loups, pas de problème, ça fonctionne. J'avais une dernière inquiétude, c'était de revoir Open Range, parce que j'en avais pas trop de souvenirs, en fait. Je me suis dit, si j'en ai pas trop de souvenirs, c'est pas bon signe. Donc ça, c'est début 2000, c'est 2003, si je dis pas de bêtises, donc c'est post-11 septembre, tout ça, machin. Robert Duvall, je dis, bon, s'il y a Robert Duvall, il n'y a pas trop de risques, parce que Robert Duvall, c'est un signe de qualité.
C'est carrément, évidemment, c'est 5 sur 10 minimum déjà. Puis après, c'est que minimum, des
même le pire des films, Robert Duvall, c'est bon, ça, c'est une qualité. Et à ma grande surprise, c'était encore mieux que ce que je pensais. Alors, en effet, rien à voir en termes ni de rythme, ni de mise en scène, ni d'histoire. C'est un western. C'est le dernier grand western de l'histoire du cinéma américain, je pense. Post, justement, Impitoyable et Danse avec les loups. Open Range. Vraiment l'histoire de deux cow-boys qui doivent s'arrêter dans une ville. Donc, ça ressemble vraiment à Ma Darling Valentine de John Ford. Ça pourrait être Wyatt Earp, finalement. C'était génial.
Un super buddy movie.
C'est un super buddy movie. En termes de fusillade, d'action, c'était exceptionnel. En termes de décor, en termes d'installation, c'était exceptionnel. Open Range, c'est génial. Et je me suis rendu compte que tous ces films-là n'avaient droit à aucune restauration de la part de leur studio, qu'ils étaient laissés vraiment, c'est les films qui prennent la poussière, qu'on oublie, tout ça. Et Kevin Costner, depuis du coup Open Range, il a eu plein de projets. Il est tombé dans le fond du trou. Il est remonté avec Yellowstone. Il a eu quelques séries western quand même, At Phil and McCoy par exemple, qui était pas trop dégueulasse. Mais bon, c'était pas non plus du niveau justement de inoubliable de Danse avec les loups. Et moi, j'avais beaucoup d'appréhension à aller voir Horizon, première partie. Donc de sa saga américaine, il annonce 4 parties. La deuxième doit sortir chez nous, hein, au mois de septembre. Aux États-Unis, la sortie du deuxième opus a été annulée. Et donc ça sortira directement, peut-être sur une plateforme ou alors en objet, parce que ça a été un gros flop. On a le droit, en tout cas, de voir chez nous pour le moment la première partie qui dure 3 heures. Donc c'est cette saga américaine qui est un geste d'amour absolu envers le western et c'est vraiment ça, je pense, qui intéresse Kevin Costner. Il revient encore à ça, hein. C'est vrai, on évoquait, hein, le fait que c'était quand même laissé à l'abandon ou alors réutilisé par des gens qui veulent surtout faire du film d'auteur et évoquer d'autres trucs. Lui, il veut faire du western classique, c'est son grand projet, le western classique, et on a le droit avec cette première partie à... Alors, pas tout, parce que du coup, il y a d'autres parties qui vont arriver. Donc, j'imagine que l'attaque de Diligence ou le train ou d'autres choses comme ça, ou les batailles de Saloon, ça arrivera dans la deuxième partie. Mais sans ça, on a dans une première partie déjà une grande majorité, en fait, des archétypes du western et qui vont être distribués à différents personnages, hein, dans un film choral. Qui sont pour moi, enfin, c'est ce que j'espérais voir au cinéma depuis longtemps. De voir ce western-là en effet classique, c'est classique, en termes de forme, en termes de mise en scène, en termes d'écriture même. On va réutiliser en effet des archétypes, une mise en scène même en fait, et une musique qui rappelle la musique plutôt des années 50 ou 60, très orchestrale en fait, qu'on n'entend plus du tout au cinéma. Et Costner va ramener tout ça en fait dans son film Horizon. Et j'ai eu un plaisir de spectateur que j'avais pas ressenti depuis très longtemps en fait. Il aurait pu envoyer la deuxième partie à la suite, j'aurais continué. J'étais à fond les ballons.
Ah, j'ai vu Étienne à la sortie de la salle, il avait les yeux rouges.
Ah, c'était super. Ça faisait longtemps en fait que j'ai... C'est ce que je voulais voir, c'est ce que je veux voir au cinéma en fait, c'est ce que j'attends typiquement. Alors, c'est pas uniquement parce que c'est des ingrédients de western, c'est parce qu'il a, il a vraiment réussi en fait à intégrer tout ça. Alors, à la fois un récit, c'est-à-dire qu'on on a vraiment, en effet, il appelle ça une saga américaine, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, voilà, ça démarre avec des colons, avec des gens qui vont essayer de gérer un espace qu'ils découvrent et de s'y installer et qui vont devoir lutter, en effet, pour s'installer dans cet espace et pour s'y intégrer, pour trouver leur place, en fait. C'est vraiment le sujet, c'est le cœur du film. Trouver sa place dans un espace, en fait. Et donc cet espace, il est filmé de façon merveilleuse par Costner. Et son chef-op, qui était un type qui a bossé avec James Cameron, Monroe.
Ouais, le réalisateur de Street Trash.
Voilà, c'est ça. Le réalisateur de Street Trash, qui a bossé après avec James Cameron, qui a appris beaucoup avec James Cameron, et qui fait des choses merveilleuses, du coup. Et Costner, lui, il s'est. Et puis il est aidé par quand même un type qui a fait la musique de La Passion du Christ, Mel Gibson Point. Donc il va intégrer le décor constamment à son récit, évidemment, et les plus beaux décors des États-Unis possibles, en fait, ils sont dans son récit. En fait. J'ai entendu des reproches sur le fait que les différentes histoires, les différents personnages, on n'arrivait pas ils s'intégraient pas entre eux, machin. Je pense que les gens qui disent ça, c'est des gogoles qui n'ont jamais vu de western, qui n'ont jamais lu un livre de leur vie, en fait. Ils se croisent jamais, c'est nul. Et ben, écoute, et c'est Yal Sada qui a dit ça dans les cahiers du cinéma. Et ben, et j'aimais beaucoup Yal Sada. Et ben, je suis désolé, mais c'est pas possible. On peut pas dire ça, c'est pas sérieux, en fait.
Ben non, mais moi, je partage pas mal de ouais, des reproches.
En effet, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de récits. Moi, j'avais peur de ça. Franchement, j'y allais un poil à reculons. Et j'ai été très surpris de voir à quel point, en fait, mais le cœur du récit, il n'est pas dans les personnages qui vont se croiser. On s'en bat les couilles. Faut être sérieux un moment, quoi. Le cœur du récit, c'est justement, c'est l'installation d'un peuple, en fait, dans un territoire. Et comment on va gérer ce territoire? Comment on va s'intégrer à un territoire avec toutes les difficultés, en fait, que ça représente aussi. Et les rejets que ça représente. Le film est plein de subtilités à tous les niveaux. Que ça soit avec la représentation des Amérindiens, justement, les conflits qu'ils ont entre eux aussi, en fait. Il y a des discussions qui sont super intéressantes entre les Amérindiens pour dire, ben voilà, il faut soit être pacifique justement avec ces gens qui essayent de s'installer, comme ça ça va se gérer, et non, ou le conflit ou la guerre pour les éviter. Ben voilà, comme dans tout le western, en fait. C'est-à-dire que le film est capable, le scénario écrit par Kevin Costner, qui produit, qui écrit, qui joue dedans, qui réalise, qui fout tout son pognon.
Je crois qu'il a fait la bouffe aussi.
C'est vrai que je voulais pas revenir là-dessus, parce que je vais pas juger la qualité du film par rapport à le projet insensé et l'investissement qu'il y a, mais c'est vrai que c'est un investissement assez exceptionnel, et j'apprécie énormément le geste en lui-même, mais j'ai pas pris du plaisir parce qu'il a fait un super geste. Mais je pense au prochain Coppola. J'adore le geste.
Après,
de Coppola.
Après, c'est assez étonnant, Coppola, ouais, mais les deux films qui vont sortir cette année soient à peu près des trucs qui sont des montages financiers à peu près pareils, avec des projets un peu tarés, deux mecs qui n'ont pas la même génération, mais qui sont plutôt des stars dans chacun de leurs domaines, en tout cas des grandes icônes, et qui ont mis toute leur fortune personnelle dans des projets absolument monstrueux, où ils ont fait à peu près ce qu'ils voulaient. Quoi.
Mais c'est pas leur argent qui me procure du plaisir.
Oui,
je trouve ça génial, j'adore le truc.
Dit, voilà, après, je pense qu'il y a un truc dans le geste qui se voit, quoi, en fait, qui se ressent. Moi, après, à la limite, j'ai pas encore vu le Coppola, et j'ai quand même très très hâte de le voir, malgré la douche froide qui s'est pris lors de sa présentation à Cannes.
Costner.
Mais en fait, ceci dit, voilà, moi je sais que si je peux te faire le gogol et des reproches, moi j'ai quand même l'impression. Moi, j'avais des craintes sur le film. Même à l'annonce du projet, on me dit, oh là là, putain, trois films de 3 heures, plein de personnages, tu dis, oh là, ça va être une série sur grand écran, quoi. Ça va être un truc avec que du matériel narratif, c'est-à-dire plein d'intrigues, plutôt bien écrit comme plein de séries et tout ça, mais au final, pas de mise en scène, pas de cœur au film et tout ça. Et j'étais assez surpris. devant le film que bah ouais au final c'était pas non plus une narration si sérielle que ça, enfin, c'est-à-dire qu'on est vraiment effectivement le fait que des personnages se croisent et tout ça, ça l'intéresse pas spécialement, effectivement on va suivre plusieurs lignes narratives mais le film ne carbure pas que on va dire à l'événement comme c'est le cas dans la série, c'est-à-dire où il faut qu'il se passe un truc, il y a quand même des scènes où ça prend le temps,
le détail, voilà. C'est un film qui est limite documentaire, parfois ça pourrait être un Ken Burns quoi. Enfin,
ouais après je pense que c'est surtout qu'il va d'un coup mettre accorder 15 minutes à hein, une petite voilà ou une petite sorte de farce un petit peu à la western mais très années 40-50 de deux soldats et un général qui vont enlever le lit de la
main. On retrouve en fait un esprit John Fordien dans là-dedans sur justement l'attention qui est portée aux traditions, aux rituels en fait.
Et... Oui. Puis un côté un peu de la comédie quoi. Il y a un peu de ça. Le film est touffu. Enfin moi. Enfin, ceci dit, voilà, il y a pas du coup cet aspect sériel, mais ceci dit, voilà, moi j'ai trouvé le film grotesque à plein d'endroits et grotesque au sens
où quand
par exemple cette scène-là, je me suis dit oh là là, c'est très daté cette scène-là, limite de comédie avec Michael Rooker et ses deux soldats là qui font attention parce qu'il y a la matrone qui doit pas les voir. Je me dis oh là là, ouais, on dirait ça cette scène-là. Oui, on en a vu des caisses dans plein de westerns, très classiques et tout ça.
Et qui
passe très bien.
Inspiré par John Ford.
Ah ouais, complètement. Mais alors quand tu la vois génial. Maintenant, tu dis ouh, c'est un peu gênant. Tu t'attends à voir une musique, un petit truc de Mickey Mousing avec les mecs qui marchent tout, tout, tout. Là, tu dis non, ça le fait pas. Ça le fait pas en 2024 d'avoir ça. Et j'ai trouvé que dans l'étirement qu'il avait sur chaque scène, je me dis bah non, mais en fait, passer de très mauvaise idée de se produire soi-même, c'est qu'au bout d'un moment, tu aurais bossé avec un producteur, il t'aurait dit bah non, tu arrêtes quoi. Tu resserres, c'est pas possible. Il y a plein de trucs là-dessus, où même les scènes, la scène de d'assaut inaugural, ce tour de force-là, tu dis, elle est pas mal. Voilà, moi je trouve que le film ne cerne pas du tout ses enjeux. À la réflexion, je me dis, cette idée, ces premiers plans sont géniaux de ces types qui posent des trucs de bois avec des fils pour bâtir des baraques. Ils sont observés par des Indiens au loin qui disent, ils font quoi, c'est un jeu ou je sais pas quoi. Et puis en hors champ, on comprend après qu'ils ont été dégommés et compagnie, qui bâtissait une ville. Et en fait, moi, j'ai eu vachement de mal à comprendre l'enjeu central qui est effectivement ce motif de ce flyer qui tourne horizon
et
tout ça.
C'est le territoire américain.
Qui est vraiment le motif. Mais je me suis dit, et ça, c'est presque, et je trouve que c'est très mal géré en termes de mise en scène et de récit, ce truc-là, parce que ça devrait être un truc à la Winchester 73, ou je sais pas quoi, où on suit un fusil, là, ou je sais pas quoi. Il aurait dû être presque plus marqué que voilà, cet élément visuel-là. Ce flyer peut-être aurait dû plus structurer l'ensemble des récits, parce que moi dans l'état là je vois pas ce qui lie toutes ces histoires et je trouve pas le film très beau, trouve le film en termes de lumière assez pauvre, très lumière zénitale tout le temps, et je dis bah non, c'est pour ça que je disais dans 1883 bah non en fait il y a t'as les lumières du matin, t'as la lumière du soir, t'as la lumière. Et ben là, dans ça, tu dis, non, il y a la lumière, c'est toujours pareil. Et c'est en termes de mise en scène, de souffle et tout ça, les paysages, c'est superbe. Enfin, vraiment, c'est superbe, mais à aucun moment, j'ai l'impression qu'il en fait quelque chose. Si ce n'est le fait que, non, il a tourné dans des endroits. Putain, c'est dingo, mais en fait, il en fait pas grand chose, quoi. Et je préférais presque qu'il ait tourné sous fond bleu, d'être un vrai metteur en scène et d'avoir intégré le parc de Yosemite ou le Grand Canyon.
Alors, tu vas regretter, tu vas revoir.
Je l'ai regardé en deux fois et j'ai dormi les deux fois sur des moments. C'est peut-être pour ça que je trouvais
c'est
un peu flou.
C'est pas sérieux.
Il y a des trucs que j'aime bien et j'ai quand même hâte de voir la suite parce que je trouve qu'il y a des.
Alors, tout ce que c'est
parce que Sienna Miller, elle est choupie.
C'est pas sérieux ce que tu racontes. À aucun moment ce que tu racontes c'est sérieux. Il faut que tu te calmes et tu reverras le film et tu le regretteras et c'est comme Avatar 2, tu m'as fait le même truc, tu m'as dit Avatar 2, j'ai vu ça, c'était nul, c'est le pire film de l'année, tout machin. Et puis en fait, tu es retourné le voir et tu m'as dit c'était très bien. Et là, on est dans le même, vraiment le même projet.
Ah non, pour moi,
tu vas regretter. Et alors, du coup, tout le décor en effet est exceptionnel. Tous les décors qu'il a pu choisir sont exceptionnels et s'inscrivent complètement en fait dans ce qu'il raconte. C'est-à-dire, justement, comme je le disais, c'est-à-dire qu'il s'agit de personnages qui poursuivent une pas une utopie forcément, parce que chacun a sa propre, son propre projet, en fait. C'est notre projet et ils veulent aller vers quelque chose. Et donc, chacun va chercher. Et le décor représente à chaque fois, en effet, ce que les personnages cherchent à créer. Et donc, on va avoir ces montagnes folles, on va avoir des grandes plaines, on va avoir les forêts où ils vont se perdre. Il a un grand truc presque malikien, en fait, dans la façon de montrer les décors. Qui va combler en fait les manques de discours des personnages. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le western va pouvoir en effet se passer de dialogue, et c'est le décor qui va raconter des choses, et ça il l'utilise très très bien.
Ah, ça, j'ai l'impression que ça jactait vachement moins, mais
ouais, mais parce que t'étais pas attentif et ouais. T'as dormi et
non
t'es
ça jactait vachement quoi,
et t'étais pas attentif et c'était pas sérieux et t'as pas regardé le film correctement. Ça c'est la première chose. Donc de toute façon tu peux pas parler du film parce que tu l'as pas regardé correctement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, t'as évoqué d'autres conneries, je crois, qu'est-ce que t'as dit comme conneries?
En termes de récit, je pense que clairement, le film ne cerne pas son enjeu. Il se regarde trop filmé, il est trop satisfait de faire un western. Moi, j'ai l'impression de voir un gamin richissime de 80 balais qui se dit, bah tiens, je vais faire un western comme je regardais quand j'étais petit. C'est pas possible de faire
en effet, Je peux comprendre en fait ce qui t'a posé problème, comme qui peut poser problème à d'autres gens. Ça m'a fait penser, moi, à une conversation qu'on avait eue avec Salvadori sur la comédie, en fait. Et le fait qu'il utilisait des conventions qui étaient utilisées dans les années 40. Et moi, j'étais surpris qu'il puisse, dans ses comédies à Salvadori françaises des années 90-2000, en fait, réutiliser des conventions de mise en scène, en fait, qui étaient utilisées dans les années déjà 40-50. Et que ça passe quand même. Je pense que Costner, il utilise des conventions de cinéma, en fait. Et il faut être capable de les accepter. Ça, c'est une chose. Et donc, il y a des conventions de cinéma qui sont adaptées, évidemment, à une mise en scène de 2024. Légères, elles sont légères. Parce qu'on fait. Il est dans un cinéma classique et justement, il ne veut pas. Et ça, c'est un truc. Je pense que ce qui me plaît le plus, même dans son film, en fait. À aucun moment montrer, tiens, regardez, je fais de la mise en scène. Je ne fais pas de la mise en scène et je fais un récit. Et sans rentrer dans le feuilletonesque, ce qui est reproché par les cahiers du cinéma, alors que j'aimais beaucoup leur couverture, j'ai envie de le balancer encore.
Mais même en termes de. Il parvient vraiment à réexploiter
certaines conventions, les adapter. Sans jamais rentrer dans quand même du m'as-tu vu en fait de pas dans du post-western.
Non.
Mais en fait c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui.
Ouais, moi je dirais quand même qu'on est dans du
on
post-western.
On est dans du super. On pourrait être dans le pire des cas.
Pour moi c'est l'équivalent.
On est dans
limite.
Du super western.
Oui c'est ça,
en fait.
C'est l'équivalent peut-être de la conquête de l'Ouest qui est quand même pas un chef-d'œuvre quoi.
On est loin de l'échec de la conquête de l'Ouest. Justement il était plombé constamment partout en fait. Par un casting dingue, par une technique trop lourde, et la conquête de l'Ouest, c'est sympa à regarder, mais ça fonctionne pas. Là, il y a un plaisir, et il y a une envie, et il y a un romanesque, en fait. Et moi, j'étais embarqué par ce romanesque constamment.
Très bien. Non, mais écoute, de toute façon...
C'est pas la peine de le prendre comme ça, Antonin. C'est pas la peine de me parler...
Chacun ses goûts de merde, j'ai envie de dire.
Mais tu vas le regretter.
Mais ceci dit...
Dans 10 ans, on en reparlera.
Exactement.
Et vous verrez que Horizon, c'était le dernier grand western.
Je m'engage, en tout cas, à aller revoir même la... Même la dernière scène du film qui est l'assaut du camp indien,
oui, d'accord.
Et de me dire, mais parce que moi j'ai regardé ça en me disant, mais merde, tu t'as aucun sens de l'espace, c'est pas possible quoi.
Non, alors,
ça marche pas du tout.
Il est trop doué. En termes de mise en scène, c'est impeccable.
Non.
Et le seul reproche, le gros reproche que je fais au film, c'est la bande-annonce finale. C'est le seul truc.
Non, mais...
Je me suis barré parce que la bande-annonce finale, bon, pour moi, c'était insupportable. On nous annonce ce qui va se passer dans l'épisode d'après et qu'il y aura la diligence. Je voulais pas voir parce que je vois la surprise, parce que je veux voir la suite, parce que c'est génial. Et j'étais. J'ai regretté en fait de pas être un enfant dans les années 50 qui découvre les westerns de John Ford au cinéma et de voir ça à la télé. Et là, de voir ce western sur grand écran, pour moi, c'était tout ce que je voulais voir sur un grand écran, c'était ça.
Alors qu'il y avait le western. Film d'Assayas dans l'autre salle, franchement,
oh, dur, dur. J'aurais pu voir du coup un film d'Assayas sur le confinement, et non, il y avait ça. C'est ça que je veux voir sur un grand écran. Ces décors qui l'intègrent, pour moi, les. Encore une fois, je le redis après, je vais arrêter de. Mais tous ces décors qui sont exceptionnels parce que le.
Parce
il
que
a
c'est,
vraiment
c'est
été.
Assez beau, les États-Unis.
Il a été filmé quand même dans les plus beaux parcs des États-Unis, je pense. Wyoming.
Disneyland.
C'était exceptionnel. Et ben, de voir ça sur grand écran et de pas juste filmer des décors. Contrairement. Alors, un dernier truc que je voulais dire quand même, après, parce qu'on a dépassé de toute façon. C'est vrai que Danse avec les loups, il avait ce cadre-là, ce cinémascope qui était génial. Ouais, c'est beau, le cinémascope Danse avec les loups est exceptionnel, les lumières sont dingues.
Là, le 1,85, c'est.
Et là, du coup, on revient en 1,85 et je peux comprendre que ça. Voilà, ça correspond pas forcément à l'image qu'on se fait du western, en fait. Voilà.
Ouais, mais après, c'est vraiment pas un problème dans le sens où c'est pas un. Moi,
non seulement c'est pas un problème, mais
c'est
un projet.
J'ai revu la Rivière Rouge de Howard Hawks. Tu le regardes, il est en 1,33, t'as l'impression qu'il est en scope. Là, tu regardes en 1,85, t'as l'impression qu'il est en 1,33.
Toi, tu sais pas de quoi tu parles.
Non, il s'est pas cadré.
Le fait est que.
C'est pas très bien cadré.
En fait, c'est un projet, c'est-à-dire que dans la Danse avec les loups. Il va faire du coup un film plutôt contemplatif en fait, et c'est génial. Enfin,
mais je partage ton enthousiasme sur Danser avec les loups.
C'est contemplatif, ouais. Et moi j'adhère complètement au projet, c'est magnifique. Là, on n'est pas dans un film contemplatif, on est dans un film qui va évoquer justement le mouvement constant. Des gens qui ne peuvent pas rester en place et qui parlent constamment d'ailleurs et qui évoquent constamment le fait de le désir de pouvoir se déplacer et de changer d'espace en fait. Et du coup, il aurait fait ça en cinémascope, ce qui aurait été plutôt facile pour faire un western et pour dire « Ouais, regardez, je fais un western, c'est trop beau. » Comme n'importe quel connard l'aurait fait, en fait. Genre Scott Cooper fait Hostile, machin, tout.
Ou Viggo Mortensen.
Voilà, ou Viggo Mortensen, qui aurait fait un cinémascope parce que c'est facile, parce que regardez, je fais du western. Non, parce que le projet, là, c'est du mouvement. Donc, du coup, on va faire un cadre plus resserré, en mode classique, justement, à la. Pas Boutiqueur, mais plutôt année début 60, voilà, plutôt classique, comme John Ford, en fait. On est plutôt en mode John Ford, qui n'aimait pas non plus le cinémascope. Et par contre, on va montrer ce mouvement des gens avec la caméra. Et quand il n'y a pas besoin de bouger, la caméra, elle ne bouge pas non plus. Il n'en abuse pas. En termes de mise en scène, c'est exceptionnel, en fait. Mais c'est subtil. Et les gens comme toi, ils ne comprennent pas la subtilité.
Non, je préfère Amélie Poulain.
C'est ça.
Je préfère Amélie Poulain.
En fait, le film est trop subtil pour les gens. Et toi, tu ne comprends pas la subtilité. Je suis sérieux avec ça. Hein.
Ouais,
je pense vraiment que...
De toute façon, on remettra ça probablement à la rentrée quand le deuxième volet sortira. Tira au cinéma pour la troisième fois en 10 ans pour le revoir.
Je suis prêt à aller au cinéma pour Costner.
Et moi, j'irai le voir sans problème.
Merci, je suis désolé pour. Mais vraiment, c'est dommage que les gens.
Allez-y,
soient pas
allez-y.
Si vous voulez voir du cinéma, il y avait Furiosa, et eh ben il y a mieux, il y a Horizon.
N'importe quoi.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver, bien évidemment, cette émission en podcast sur le site de Canal B. Merci Antonin de nous avoir accueillis.
C'est la dernière fois, je te préviens.
Dans ta demeure. Mais non, parce que tu vas revoir le film et tu vas te dire oh, mais putain, je suis passé à côté, je suis con en fait. Et en fin d'année, je sais très bien qu'au top 1, il y aura Horizon, Furiosa
et
Ferrari.
Hors du temps de Assayas.
Hors du temps de Assayas. On a déjà un top 4 pour la fin d'année, c'est parfait. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.
Des bisous.
Looking back, there were two journeys. One was filled with danger and death and despair. The other, adventure and wonder. I was on the latter, and I loved it.
Wait, turn that shoulder!
I didn't know enough to know they would collide. I didn't know enough to know how cruel and uncaring this world can be. The world doesn't care if you die. It won't listen to your screams. If you bleed on the ground will drink it. It doesn't care that you're cut. I told myself, when I meet God, it will be the first thing I ask him. Why make a world of such wonder and fill it with monsters? Why make flowers and then snakes to hide beneath them? What purpose does the tornado serve? Then it hit me. He didn't make it for us.